Chapitre 2. En vérité, je n'ai pas ri, mais j'avoue avoir souri. De douleur sans doute, ou plutôt de tristesse, de dépit. Un sourire de joueur d'échecs battu par plus fort que soi. Depuis quelques années, la mort m'encercle. Elle cherche à m'enclore, à s'approcher au plus près de moi, afin de me tâter un peu, pour me faire comprendre que je vieillis, qu'il faut que je m'attende à elle, que le match a commencé alors que je n'ai pas encore l'impression qu'on m'ait tiré des vestiaires. Peut-être. Dans un de mes nombreux carnets, où s'amoncellent des notes que je ne relis jamais, je me suis souvenu d'avoir collé une petite reproduction d'une gravure de Dürer. On y voit un jeune couple d'amoureux qui s'enlace, et derrière eux, à quelques mètres, dissimulé à demi par un arbre, la mort qui les regarde. La représentation est édifiante, squelette, faux, et le message simple. Toute beauté s'épanouit à l'ombre du danger dernier. Nous oublions notre condition passagère, et notre vie se passe sous le regard de celle qui ne nous oubliera pas. Faut-il pour cela l'intégrer dans le déroulé de nos jours, ainsi que le font les Torajas? Vivent-ils mieux que nous ne le faisons? M'ont toujours hanté les mots de Montaigne sur le fait que « philosopher, c'est apprendre à mourir » et que « ce n'est pas la mort qui est difficile, mais le mourir ». Je ne suis pas un homme du XVIe siècle, accoutumé aux épidémies, aux guerres, à la perte brutale et fréquente d'amis, de parents, d'enfants, et pour lequel déjà un homme de 40 ans était un vieillard. Mais la littérature, celle qu'on lit, nous marque avec la profondeur d'un couteau planté dans un organe, sans que le pronostic vital, l'expression m'a toujours enchanté en cela qu'elle associe une mesure légère, celle de l'horoscope, de la prédiction du turfiste, du météorologue, à un adjectif qui nous fait trembler comme une feuille, soit réellement engagé. D'ailleurs, lorsqu'on est en pleine santé, quand donc ce fameux pronostic, sans qu'on n'en sache rien, commence-t-il à s'engager? On dirait à parler de lui ainsi un matelot attendant sur un quai son navire. Je n'ai peur de rien pour moi. Je ne crains pas ce que je ne connais pas, à l'inverse sans doute des premiers hommes à l'aube de l'humanité dont l'horreur ne naissait que de l'inconnu. Habitant du début du troisième millénaire, je sais trop combien ce qui compose mon environnement recèle de puissances létales. Nous avons fait de la Terre un vieux fatras toxique et nos sociétés aux vitrines si propres sont de grands dépotoirs masqués, gorgés de poisons innombrables et de charges explosives. Non, ma peur ne provient pas d'une absence de connaissance, mais d'un trop-plein. Et je crains bien entendu davantage la disparition de ceux qui m'entourent que la mienne. Ce qui n'est pas, comme on pourrait le croire, le contraire de l'égoïsme, mais sa forme la plus achevée. J'ai appelé Eugène, et il a décroché aussitôt. Sa voix était heureuse, normale. Il a tenté de me faire parler de mon voyage et j'ai tenté de le faire parler de son cancer. Ce fut un dialogue de sourds auquel nous avons mis fin rapidement sur la promesse que nous dînerions ensemble le soir même. Ma valise était encore dans l'entrée de l'appartement. L'image m'a frappé soudain. En la découvrant ainsi posée, un spectateur aurait été incapable de savoir si cette valise témoignait d'un retour ou d'un départ. Cela m'a fait penser que, si nous n'avions pas les moyens, parfois, de découvrir la vérité de simples mises en scène comme celle-là, comment pourrions-nous prétendre connaître celle de mystères plus opaques? Sous la douche, j'ai songé à Eugène. À comment j'allais le regarder, l'embrasser? Fallait-il que je me montre soucieux, d'emblée, ou plutôt rassurant? Léger ou grave? Devais-je aborder le sujet de front ou lui laisser l'initiative? L'eau brûlante coulait sur mes épaules. J'étais là depuis 10 minutes et je ne savais toujours pas comment j'allais procéder avec lui. Je me suis soudain senti ridicule. Qu'avais-je besoin de préparer nos retrouvailles? Il ne s'agissait pas d'un entretien d'embauche, ni de l'oral d'un examen. Je me rendais compte combien ce qu'il m'avait annoncé avait commencé à changer la donne. À quel point le fait qu'il m'ait dit être atteint d'un cancer parvenait à modifier l'appréhension que j'avais de lui, comme si, chargé désormais de cette maladie, il n'était plus tout à fait l'homme que je connaissais, mais devenait une créature en partie étrangère et avec laquelle je ne savais pas encore comment il fallait que je me comporte. Le mot « cancer » dans nos sociétés résonne comme une antichambre de la mort. On ne guérit jamais d'un cancer, on est en rémission dans le meilleur des cas. La rémission des péchés est-elle du même ordre que celle-là? Une sale maladie qui a pourtant un joli nom, mais que beaucoup de nécrologies et d'avis de décès choisissent de faire disparaître derrière des périphrases qui parlent le plus souvent de longues maladies. Il s'agit souvent d'un mensonge d'ailleurs, car il existe des cancers très pressés qui détruisent les corps en quelques mois, voire en quelques semaines, impatients sans doute de s'attaquer à d'autres corps. La clientèle est nombreuse, elle ne tarit jamais. J'ai remarqué aussi que, depuis quelques années, on ne parle plus de cancérologue pour désigner les médecins spécialisés dans la maladie, mais d'oncologue. Le mot est plus imprécis, sourd jusque dans sa musique, rassurant peut-être. Je ne sais pourquoi je l'associe au domaine des fruits de mer, à la pêche à pied en juin sur une plage bretonne un peu fraîche, aux violentes senteurs d'iode et de varech. Oui, pour moi, un oncologue est un retraité solitaire, peut-être veuf, qui profite de son temps désormais constamment libre pour parcourir, chaussé de bottes en caoutchouc jaune, partant de marée basse, les étendues sableuses, piochant dans les mares et les anfractuosités de rochers pour y trouver des poissons emprisonnés, grattant les pierres sur lesquelles moules, bulots et oursins se tiennent serrés, comme des familles de réfugiés. Oncologue, un mot de cruciverbiste ou de jeu télévisé. Nous avons beaucoup ri, Eugène et moi, pendant le dîner. Un peu trop, et bu aussi, surtout moi. Bordeaux, bien sûr, car Eugène n'aime que le Bordeaux rouge. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, je me souvins qu'il n'avait que peu touché à son verre. Nous nous étions retrouvés dans notre brasserie préférée, celle que nous fréquentons depuis des années dans le 9e arrondissement. J'aime la vie un peu lente qui s'y joue. Nous avons notre table. Les serveurs, qui sont trois, Michel, Gérard et Jean, nous connaissent et nous appellent par nos prénoms, mais en nous vous voyant. Ils ressemblent à des serveurs de brasserie qui forment, on le sait, l'aristocratie du métier. Haute stature, moustache, ventre, tablier large et blanc, nœud papillon noir. Ils savent à la perfection préparer un tartare, lever les filets d'une sole, flamber des rognons ou des crêpes suzette. Tout cela a un côté très sauté, période garçon. J'ai toujours aimé quand la vie ressemble au cinéma. Eugène a pris un foie de veau et moi une andouillette. Nous nous étions auparavant partagé un poireau vinaigrette et avons fait de même avec un millefeuille en dessert. Deux cafés, l'addition. Pour Eugène, qui ne se laisse jamais inviter qu'une fois par an, le jour de son anniversaire, le 28 mai. Dans ma poche, j'ai gardé durant tout le dîner le paquet de crétèques que je voulais lui offrir. Je suis reparti avec. Comme avec tout ce que je voulais lui dire sur les Toradja, les rites mortuaires, l'arbre aux enfants. Eugène était arrivé après moi. J'étais assis sur la banquette depuis 10 minutes. Gérard m'avait apporté un verre de Rully blanc, tout en me complimentant sur ma mine. La porte-tambour s'est mise à tourner. Eugène est apparu. Toujours le même, le visage radieux, éternel jean, éternel blazer bleu, chemise blanche, mocassin brun, allure adolescente, cheveux denses, poivre et sel. Je me suis levé, nous nous sommes embrassés et serrés dans les bras, peut-être un peu plus longtemps que de coutume. Je pense que c'est moi qui ai, sans le faire exprès, prolongé l'étreinte. Eugène est mon producteur et mon meilleur ami. Il a d'abord été mon producteur, puis, progressivement, est devenu mon meilleur ami. Je ne sais pas si je suis le sien. Je préfère ne plus me demander ce genre de choses. On ne sait jamais vraiment ce que nous sommes pour les autres. Et je dois à des désillusions de cette nature quelques-uns de mes plus vifs chagrins. J'ai raconté Sulawesi, les ciels, les chemins de terre rouges, les forêts hantées par les cris des singes, les marchés de nuit, l'adorable puanteur des braseros sur lesquels cuisent les viandes, l'infini qui se reflète sur les lacs, les vieilles américaines aux cheveux roses, le petit enfant qui était venu vers moi tandis que je marchais sur le mince talus entre deux rizières hérissées de pousses de padi et qui m'avait donné sa main. Je l'avais saisi, ému, croyant qu'il voulait que je le rassure et l'aide à cheminer. Alors qu'en vérité, je m'en étais rendu compte un peu plus tard, c'était lui qui, m'imaginant très vieux, pensait m'aider ainsi à ne pas tomber. C'est au moment du millefeuille que j'ai osé me lancer. Eugène n'avait pas abordé le sujet de tout le dîner. Il semblait si heureux. Il semblait tellement comme avant que je me demandais si je n'avais pas rêvé le message du répondeur. Quand j'ai dit « vilain », c'était pour te faire peur. Il n'a rien de vilain. C'est un cancer ordinaire, un débutant qui plus est. Sans doute un amateur. Tout a été pris à temps. Une petite tache sur le poumon gauche. J'ai vu les meilleurs spécialistes. Ninon s'est occupé de tout. Une brève intervention suivie d'une chimio légère. Et on n'en parlera plus. Ninon est la fille aînée d'Eugène. Elle est médecin psychiatre. Elle vient juste de s'installer. Eugène a 5 enfants, de 5 femmes différentes. Le dernier n'a pas 6 ans. « J'en ai eu pour toi », me dit-il souvent. Eugène tombe amoureux souvent. Et quand Eugène est amoureux, il fait un enfant. Eugène s'est tu, m'a souri, a piqué un morceau de millefeuille sur sa fourchette, l'a dégusté en fermant les yeux, puis il m'a dit, en pointant la pâtisserie, « Dieu existe, tu sais, c'est incontestable. » Puis il a levé son verre et nous avons trinqué à Dieu, au millefeuille, à nous, à la vie. Eugène est mort moins d'un an plus tard, le 23 février 2013. Son cancer était vraiment vilain et il n'a cessé en quelques mois de le devenir davantage. Ce n'était pas un débutant comme il l'avait cru, mais un vieux professionnel qui a fait son travail avec méthode, un tueur à gages aguerri. La semaine précédant sa mort, lors des visites quotidiennes que je lui faisais dans le service de soins palliatifs de l'hôpital, je lui ai enfin raconté l'arbre du pays Toraja. La morphine détendait son visage que les traitements successifs avaient gonflé. Il n'avait plus un seul cheveu sur le crâne. Un acteur italien qu'il aimait beaucoup lui avait offert un chapeau de jardinier en paille tressée qu'il ne quittait plus. Il appelait son lit roulant sa brouette. Il m'a écouté les yeux mi-clos avec un sourire sur les lèvres. J'ai posé le paquet de Cretex sur sa table de nuit. Je l'ai embrassé sur les joues qui, depuis quelques semaines, étaient constamment froides comme un marbre. Il m'a retenu avec sa main et m'a dit à l'oreille « La mort fait de nous tous des enfants. » Comme mon visage manifestait une certaine incompréhension, il a ajouté « Je te dis cela pour ton arbre. » Ce furent les derniers mots que j'entendis de sa voix. Le lendemain, il a glissé dans un bref coma duquel il n'est plus jamais sorti.